Aux États-Unis, on parle d'épidémie du siècle, une nouvelle peste, dit-on en Allemagne. En France, on est moins alarmiste, sans pour autant sous-estimer les dangers d'une maladie encore très mal connue, le sida.
Ans d'histoire. En 1981, aux États-Unis, le Centre de contrôle des maladies d'Atlanta recevait de deux médecins des informations inquiétantes. Michael Gottlieb à Los Angeles et Alvin Friedman Keane à New York avaient remarqué dans les milieux homosexuels la multiplication de deux maladies rares, une forme de pneumonie, la pneumocystose, et un cancer de la peau très rare, le sarcome de Kaposi. Deux pathologies favorisées par la défaillance inexpliquée du système de défense immunitaire des malades. Le 5 juin 1981, le Centre de contrôle des maladies publiait les premières données de ce qui allait devenir, selon l'OMS, la plus grande catastrophe sanitaire de l'humanité. Mais en 1981, on ignorait encore les causes et la gravité de cette nouvelle maladie, et elle n'avait même pas encore de nom. France Inter, le 23 mai 1983.
SIDA, SIDA, les initiales de syndrome d'immunodéfense déficience acquise. Des initiales qui font peur, le SIDA est responsable de la mort de plus de 600 personnes aux États-Unis. Une maladie extrêmement mystérieuse, elle enlève toute défense à l'organisme qui devient ainsi vulnérable à n'importe quel microbe. Le SIDA, les Américains l'appellent le cancer gay parce qu'il a touché jusqu'ici une très forte proportion d'homosexuels. C'est devenu une véritable psychose là-bas. Comme on ne sait pas si c'est contagieux, les infirmières refusent de soigner certains malades, des croque-morts refusent d'enterrer, des sauveteurs refusent de faire du bouche-à-bouche. Les homosexuels deviennent aux États-Unis les nouveaux pestiférés.
Il y a aujourd'hui de recenser, mettons, une soixantaine de cas.
Willy Rosenbaum.
Exactement 19 morts de recensés aujourd'hui. Comparé à ne serait-ce que l'hépatite virale, qui tue environ entre 300 et 500 malades par an, vous voyez bien qu'il ne s'agit absolument pas d'un fléau à proprement parler. Je crois que c'est surtout dans l'imaginaire des gens que ça a pris des proportions importantes.
Éric Favreau, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes journaliste au quotidien Libération. Vous avez suivi pendant des années l'actualité du sida et vous êtes l'auteur d'un livre publié aux éditions La Découverte, Nos années sida. Le sida qui, lorsqu'il a été découvert en 81, était si peu connu, on vient de l'entendre, que Willy Rosenbaum en avait sous-estimé la gravité, alors qu'il était, vous le rappelez dans ce livre, un des pionniers de la lutte contre le sida.
Mais oui, c'est parce qu'on a tendance aujourd'hui à tout regarder avec les images et le modèle que l'on a aujourd'hui. Mais au tout début des années 80, la situation était très particulière. Il y avait quelques médecins qui avaient noté qu'il y avait des nouveaux malades. Et ces nouveaux malades avaient une particularité. Ils étaient donc atteints de quelque chose de très grave. Mais surtout, ils provoquaient de l'exclusion, ils provoquaient de beaucoup de peur. Et donc, c'est sûr qu'au tout début, les tout premiers médecins avaient un souci de médecin, à savoir protéger leurs malades, essayer d'éviter qu'ils soient de plus en plus exclus. Et en plus de ça, on était quand même au début des années 80, on avait pensé que les grandes épidémies c'était à peu près fini, que bon, nul de toutes ces premières équipes qui travaillaient sur cette maladie n'imaginait ce qui allait se passer dans les années suivantes. Donc ils avaient au départ un souci de légitime et plutôt très positif de protéger les malades et d'essayer de dire attendez, c'est pas trop grave, calmons-nous, etc.
Alors c'est une maladie nouvelle, si c'est ce qui explique qu'il soit désemparé, et du coup on s'est demandé d'où ça venait. On a longtemps parlé de l'Afrique, Éric Favreau, où le sida existait sans doute avant qu'il ne soit découvert aux États-Unis.
C'est un peu comme toujours, hein, les histoires des maladies, il faut bien qu'à un moment donné, quoi, elles ne tombent pas du ciel d'une certaine façon. Le virus du sida, il fallait bien qu'il existe avant qu'il n'apparaisse. Ce qui est très étonnant dans cette histoire, c'est qu'on ne s'aperçoit de cette épidémie, et elle ne devient aussi très importante qu'à partir du moment où on a les outils techniques, biologiques, industriels pour l'observer. Quand on regarde maintenant, et surtout avec les remarquables études de cet historien Irko Gmerek, qui a toujours un nom un peu compliqué, on note qu'il y a eu des cas de sida au début du XXe siècle, plus tard, etc. Mais on n'avait pas les moyens de le voir. C'était la plupart du temps en Afrique, dans des pays où quand on maigrissait ou quand on avait des diarrhées, bref, ça faisait partie non pas d'un mode de vie, mais d'une pathologie très variée. Donc aujourd'hui, maintenant, on se rend tout à fait compte et on a à peu près compris l'histoire, surtout avec les lectures virologiques du virus. On se rend compte donc c'est que manifestement, ça devait venir d'animaux, en particulier de singes, et que peut-être par des morsures, ce virus est passé à l'homme. Et puis surtout, il y a un moment donné, pourquoi il est devenu à ce point pathogène? C'est tous ces événements et ces suites des événements. Et puis donc cet aspect très très intéressant qui est qu'à un moment donné, on avait les outils pour le voir.
Alors, il est peu connu aussi, mais comme la plupart des cas, des premiers cas, sont décelés dans les milieux homosexuels, on appelle ça le cancer gay. Hein, alors du coup aussi, on stigmatise, on dit, certains disent, évidemment, c'est au fond, ils ont péché, ils sont punis. Enfin, c'est assez tragique la façon dont on prend les choses, d'autant plus que on ignore, en tout cas, on ne sait pas tout de suite que ce sont des rapports hétérosexuels qui peuvent également se produire. D'ailleurs, au fond, on découvre le sida, mais on ne sait pas encore d'où il vient, en tout cas qu'est-ce qui en est responsable, d'où son nom d'ailleurs, qui apparaît en 1982 simplement, de syndrome, c'est-à-dire un ensemble de signes qui caractérisent les maladies, d'immunodéficience, c'est-à-dire qui s'attaque au système immunitaire, acquis, c'est-à-dire qu'il est rencontré au cours de la vie, ça veut dire sida, donc AIDS en anglais, mais on en ignore encore les causes jusqu'à la découverte du virus presque simultanément par deux équipes, celle du professeur Luc Montagnier à l'Institut Pasteur et celle de Robert Gallo aux États-Unis. France Inter, le 24 avril 1985.
Le sida sur le point d'être vaincu. La cause probable de cette maladie est une variante d'un virus du cancer, a annoncé hier le secrétaire américain à la santé, Mme Margaret Eckler. Elle a précisé que grâce à cette découverte, on pourra tester les premiers vaccins contre le sida dans 2 ans. Des chercheurs américains, mais aussi des chercheurs français de l'Institut Pasteur, sont à l'origine de cette découverte de la cause probable du sida. Écoutez le professeur Luc Montagnier, interrogé par Jamel Bartoli.
Pour l'instant, il n'y a toujours pas de produit pour traiter.
Absolument. Pour l'instant, il n'y a pas de produit permettant de guérir le sida. Il n'y a pas de vaccin encore pour l'instant. Un certain nombre de laboratoires y travaillent très activement. En général, un vaccin, ça prend entre 5 et 10 ans pour le mettre au point et le diffuser d'une façon pratique.
5 à 10 ans, disait le professeur Montagnier en 1985. 2 ans, assurait la secrétaire d'État américaine à la santé la même année. Or, 24 ans après, il n'y a toujours pas de vaccin. Là encore, on a sous-estimé les difficultés à en trouver un, Éric Favreau.
Oui, tout ce qui s'est passé dans l'histoire de cette épidémie est assez inédit. C'est vrai que, assez classiquement, on pensait que lorsqu'on trouve un virus, on va trouver assez vite un vaccin. Et là, on se trouve encore aujourd'hui dans une situation très claire où il n'y a aucune chance de trouver un vaccin dans les 5 à 10 ans à venir, peut-être au-delà de 10 ans. Mais en même temps, à l'époque, on ne se rendait pas compte, on n'imaginait pas qu'on allait trouver des traitements, et des traitements qui marchent très bien. C'est un modèle, un modèle et un développement virologique absolument inédit. L'autre aspect, par exemple, on s'est rendu compte au début des années 80 qu'il y avait beaucoup de personnes qui étaient porteurs. On les appelait les porteurs sains à l'époque. Et dans le modèle à l'époque de certaines épidémies, on se disait que dans ces porteurs sains, la grande majorité n'allait pas être malade. Et donc c'est pour ça aussi, ça revient un peu à la vie un petit peu, l'opinion un petit peu tranquille de Willy Rosenbaum au début, c'est qu'on pensait que certains simplement allaient développer la maladie. Or, ça a été un des événements majeurs, et d'ailleurs, quand on discute avec eux, un choc terrible pour tous ces gens, c'était de se rendre compte que d'année en année, tous les porteurs sains ou la quasi-totalité devenaient malades. Bref, tout ça pour vous dire qu'on a été dans toutes ces années-là de, non pas de découverte, mais de surprise en surprise, et la plupart du temps, de mauvaise surprise en mauvaise surprise.
On évoquait la découverte il y a quelques instants, et on a parlé essentiellement de deux hommes qui se sont en quelque sorte disputés la paternité de la découverte du virus, qui sont Luc Montagnier et Robert Gallo, qui sont beaucoup plus connus que celle dont vous rappelez qu'elle a été aussi une des premières à découvrir le virus, et que l'on trouve dans une interview qui figure dans votre livre, c'est Françoise Barré-Sinoussi.
Oui, Françoise Barré-Sinoussi est une femme absolument étonnante et courageuse, très particulière et surtout très, 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 très obstinée. Bon, c'est vrai qu'à l'époque, il y avait une logique. Bon, d'abord, pour la petite histoire, Robert Gallo même n'a rien découvert du tout. Il a volé le virus français. Donc, c'est passé un petit peu à l'as, mais ça a été une des plus grandes escroqueries scientifiques
L'enjeu était important, il s'agit de produire effectivement les tests de dépistage.
Voilà, il y a eu un vol d'une découverte française, même si après le rapport de force était tel qu'il a fallu trouver un terrain d'entente. Quant à Françoise Barécine aussi, oui, l'histoire de la découverte du virus en France est une histoire très passionnante, mais aussi très belle, parce qu'elle met en scène toute une équipe. C'est ça qui est très extraordinaire. Alors que les Américains avaient tout, et les meilleurs virologues, pour découvrir ce virus.
Et plus d'argent.
Les Français, surtout grâce d'ailleurs à l'initiative de Willy Rosenbaum, ont eu cette idée de faire travailler des gens d'horizons variés. Des médecins, des épidémiologues, des virologues. Et c'est ce groupe qui a bien fonctionné. C'est ce groupe qui a eu l'idée à un moment donné de dire « Tiens, et si on allait chercher quelque chose dans le ganglion de ce patient ? Et tiens, et si c'est un rétrovirus ?» C'est cette idée un peu collective qui a fait que, en fait, cette petite équipe française, mais qui avait beaucoup de talent, a devancé l'énorme mastodonte que représentaient Robert Gallo et toutes ses équipes.
Alors, faute de virus et en raison de l'aggravation de la pandémie, la lutte contre le sida passait et passe encore par des mesures de prévention qu'il a été difficile de faire accepter en France par le ministre de la Santé de l'époque, Michel Barzac. France Inter, Patrice Bertin, le 2 avril 1987.
Halte au sida, les capotes sont là. Un tabou est maintenant brisé. Les premières pubs pour les préservatifs masculins sont passées à la télé sur TF1 et sur M6 il y a un peu plus de 20 minutes. Un spot publicitaire branché et rigolo. Une deux chevaux arrêtée au bord d'une route de campagne. Une deux chevaux qui remue beaucoup. Le publicitaire bien connu Jacques Séguéla explique qu'il a choisi une deux chevaux parce que c'est une voiture jeune et décapotable. On a à peine le temps d'imaginer ce qui se passe à l'intérieur que déjà le slogan explicatif apparaît sur l'écran.
L'amour, faut pas en faire une maladie. Préservatif Durex.
J'ai dû être contaminé de toute façon plus tard en 84-85. Il y avait très peu d'informations sur le sujet. Bon, bah, je parlerai pas de génération sacrifiée, mais manque de chance dans le calendrier, quoi. À quelques années près, j'aurais eu l'information et il est clair que ça aurait changé pas mal de choses.
Ça, c'est une chanson que j'aurais vraiment aimé ne pas avoir écrite. Si s'aimer d'amour, c'est mourir d'aimer, sans mourir d'amour, sida, sida né. Elle est année d'amour, à mourir d'aimer, ils sont morts d'amour. D'amour sida né, oh sida. Sida, sida, danger, sida. Oh, sida, sida, amour à mort. Oh, sida, sida, assassin recherché. Mais qui a mis l'amour à mort? Mon amour malade, ma douleur d'aimer. Mon damné d'amour.
Et c'était Barbara, Si d'amour à mort, une chanson bouleversante, d'ailleurs comme beaucoup des témoignages qui figurent dans votre livre, Éric Favreau. Une chanson composée en 1987, l'année des premières campagnes aussi contre le sida, qui sont dues à Michel Barzac, qui a eu beaucoup de mal à les faire admettre, vous le rappelez aussi dans ce livre.
Ah oui, Michel Barzac, son histoire est très étonnante, et puis son courage politique était très réel, elle raconte avec beaucoup de beaucoup d'émotions comment les toutes premières campagnes, que ça soit d'abord de dépénaliser les discours sur la contraception et ensuite sur le préservatif, elle a été convoquée à Matignon en disant non, c'est un ministre ne peut pas prononcer le mot.
Rappelez que c'est une majorité de droite, comme celle qui avait fait voter d'ailleurs l'avortement en 75.
Voilà, tout à fait.
Et c'est pas facile, forcément, ça n'a pas été forcément facile à faire passer ça.
Ah oui, tout à fait. Et c'était donc un ministre ne doit pas prononcer ce mot, un ministre ne doit pas aller à l'Assemblée nationale pour parler de préservatifs et de relations sexuelles. Mmh. Et là, Michel Barzac, très courageuse, a dit moi ça m'est égal, je suis aussi médecin, je continue et je le fais. Et de fait, alors qu'on allait dire que lors de cette première séance à l'Assemblée, elle allait être très brocardée, pas du tout. Tout le monde a accepté. Ensuite, il y a eu l'autre combat, beaucoup plus difficile et beaucoup plus polémique autour de la vente libre des seringues, qui était pourtant une mesure absolument élémentaire pour casser la contamination chez les toxicomanes. Et là encore, c'est d'ailleurs très intéressant de voir que ce sont les politiques qui ont été les plus moteurs dans cette action, les politiques et en même temps évidemment les associations de malades, alors que le corps médical sur la vente libre des seringues était assez réticent.
Enfin, les politiques, et puis aussi, vous le rappelez justement, les associations, dont les deux plus connues en France sont AIDE, créée en 1985, et ACT UP en 1989, France Inter, Henri Charpentier, le 29 mai 1994, et Daniel Bilalian sur France 2, le 7 juin 1996.
France Inter. La marche pour la vie ce matin à Paris, organisée par AIDE, Association de lutte contre le sida. Une manifestation destinée à faire prendre conscience, dans la capitale européenne la plus touchée par le fléau, de l'urgence d'une implication personnelle de chacun d'entre nous.
Depuis 11h ce matin, ils arpentent joyeusement les rues de Paris, menés pas à pas par l'association AIDE pour faire reculer le sida. AIDE, la première association de lutte contre le sida, s'est inspirée des expériences de New York, Los Angeles et San Francisco. AIDE voudrait faire de cette marche un rendez-vous annuel. Au Champ de Mars, Dominique André, France Inter.
6 heures de direct hier soir sur toutes les grandes chaînes de télévision françaises pour récolter des fonds en faveur de la lutte contre le sida. Un événement marqué par l'émotion, mais aussi par la passion de certains intervenants. Gilles Marinet.
Cette deuxième édition restera marquée par l'intervention des militants d'ACT UP dénonçant les expulsions d'étrangers atteints du sida.
Elle peut se faire expulser mardi. Elle a un gamin qui est malade, qui vit actuellement malade dans un hôpital français. C'est quoi ce pays de merde?
Oui, non, d'abord, il ne faut pas dire des choses comme ça. Hein. C'est pas bien.
Merci. Moi, je m'en vais. Vous êtes un assassin.
Vous êtes un assassin, disait le président d'ACT UP en 1996, Philippe Douste-Blazy, sabotant d'ailleurs, vous le rappelez, Éric Favreau, le deuxième site d'action, puisque les dons ont été très très inférieurs. C'est vrai que cette manière très agressive de présenter les choses n'a pas forcément servi la cause du sida. C'était ACT UP. La première des associations, vous en parlez aussi, d'ailleurs il y a l'interview de celui qui l'a créé, Frédéric Edelman en 1985, c'était AIDE.
Oui, celui qui l'a créé, c'est Daniel Defer. Et Daniel Defer est un personnage absolument...
Oui, qui postface votre livre.
Qui est un personnage tout à fait extraordinaire, parce que donc c'était le compagnon de Michel Foucault. Et lorsqu'est mort en 1984 Michel Foucault, mort, et y compris les conditions de sa mort, on ne savait pas trop dans quelles conditions il était mort, est-ce que c'était le sida ou pas, il y a eu toute une polémique. Il a eu cette réaction absolument bouleversante qui était de dire... Moi, je voudrais transformer ce deuil en combat. Et donc, peu à peu, lui qui était quand même, qui venait d'une militance d'extrême gauche, très autour des prisonniers, et de donner la parole aux gens, a monté cette association de façon absolument magnifique et très bouleversante, parce que au tout début, il faut bien voir que tout le monde était totalement démuni. Ils étaient face à des gens, les médecins, qui n'avaient aucune réponse. La société en avait terriblement peur, et eux se sont dit, y compris dans ce système de désastre qui allait commencer à se mettre en place, il y a quelque chose à faire. Et la première chose à faire, c'est de s'occuper des gens qui sont malades. Et donc, il y a eu ce souci qui était d'ailleurs, c'est pour ça que c'était très un petit peu en contradiction avec les propos un peu violents 4 ou 5 ans plus tard qu'ont pu tenir ACT UP. C'était pas du tout un souci de violence, un souci d'affrontement à traiter les gens d'assassins, mais c'était il y a quelque chose à faire et d'abord s'occuper des gens qui souffrent. Ils avaient monté ces duos qui étaient des choses très très ahurissantes, qui étaient une personne malade était aidée dans les derniers mois de sa vie par quelqu'un qui était de l'association. La plupart du temps, elle n'était pas encore malade, mais elle allait le devenir. Il y a eu toute une série de scènes et de mises en avant, et surtout avec cette idée que c'est pas parce qu'on est malade qu'on n'a pas de droits, et que les droits des malades sont les mêmes que ceux de n'importe quel citoyen. Et donc c'est développé cette association. Je continue juste, c'était quelque chose d'inouï, c'est la première fois qu'une association de malades a eu une telle importance dans le développement et voire dans le suivi d'une épidémie.
Et qui a contribué quand même au changement étonnant de l'attitude de l'opinion publique vis-à-vis de cette maladie. Parce qu'on en avait peur, malades étaient considérés comme des pestiférés. Et là, on voit manifestement, ne serait-ce qu'avec les sites d'action, que le regard porté sur elle a considérablement changé en 28 ans.
Ah oui, les associations de malades, mais aussi les politiques d'ailleurs, hein, pour la la plupart, ont eu une action très importante. Les années Barzac ont été importantes parce que, de fait, la société française, grâce, alors que c'était quand même un gouvernement de droite à l'époque, n'ont pas voulu tomber dans le tout sécuritaire ou, par exemple, le test obligatoire, des choses comme ça. Et donc, il y a eu une première digue qui s'est construite, sur laquelle ensuite s'est développée et a beaucoup cru les associations. Et les associations, en fait, surtout, c'était quand même, il ne faut pas oublier, des moments où il n'y avait rien à proposer. Donc. Et le médecin était totalement démuni. Il disait à quelqu'un, vous êtes séropositif et on ne peut rien faire pour vous. Donc il y a eu cet investissement extrêmement fort, non seulement contre l'exclusion, mais aussi pour booster le pouvoir médical, l'industrie, et les forcer à agir.
L'industrie, le pouvoir médical, le pouvoir politique aussi, quand même responsable d'un des plus grands scandales de l'époque, l'affaire du sang contaminé. France Inter, Hélène Cardin, le 20 octobre 1991.
Les dirigeants du Centre national de transfusion sanguine savaient qu'ils écoulaient des stocks contaminés à 100% par le virus du sida. Le résultat de cette affaire est terrifiant. 1500 hémophiles contaminés, plus de 200 d'entre eux sont aujourd'hui décédés.
J'ai 10 ans et demi, j'ai attrapé mon sida par une transfusion. C'est dégueulasse le sida. Moi j'en ai marre des piqûres, de tout ça. Et j'ai dû la prendre toutes les 8 heures. Je peux pas faire comme les autres enfants. Je peux pas courir avec mes maladies. Je connais quelqu'un. Avant, il m'aimait. Et puis quand il a su ma maladie, c'est une fille. Quand elle a su ma maladie, elle ne m'aimait plus après. C'est injuste.
Qu'est-ce que tu voudrais dire à tout le monde pour qu'ils comprennent bien ton problème ?
Que je suis un enfant comme les autres. Je peux vivre comme les autres, mais j'ai une maladie.
Et une maladie mortelle, la plus grande catastrophe sanitaire de l'humanité, disait l'OMS en 95, au moment d'ailleurs où on se rend compte qu'il y a on peut effectivement juguler, sinon éliminer cette maladie, c'est grâce aux trithérapies à partir de 1996. Vous le rappelez, Eric Favreau, ça a été un tournant dans l'histoire du sida.
Ah, c'était quelque chose d'ahurissant. Moi, je me souviendrai toujours de ce congrès, puisqu'il y avait des conférences internationales sur le sida qui se tenaient tous les deux ans. Celle-là se tenait à Vancouver. C'était 3-4 mois après l'arrivée des trithérapies, c'est-à-dire l'usage de plusieurs molécules pour combattre le virus, et qui donnait des résultats très très spectaculaires, y compris chez des patients qui étaient extrêmement malades. Et lors de ces quelques jours à Vancouver, c'était des congrès très particuliers parce qu'il y avait beaucoup de patients, beaucoup d'associations de malades, et il y avait quelque chose d'ahurissant et de très beau qui se passait, c'était toutes ces personnes qui se rendaient compte qu'on basculait peut-être vers quelque chose d'autre, et avec deux énormes défis. Le premier, plus intime, qui était comment allaient faire toutes ces personnes qui allaient survivre à tous leurs amis qui étaient morts. On peut simplifier en parlant de syndrome de survivant, mais il y avait quelque chose de très touchant dans ces gens qui disaient « Ah ben, peut-être que nous, on va vivre et tous ceux qui sont morts avant nous ». C'était la première chose. Et aussi tout de suite, c'est pour ça que ce milieu associatif et reste assez éblouissant, c'est que tout de suite, ils ont posé la question du Sud. C'est-à-dire que le fait est que très vite, on s'est rendu compte qu'il allait y avoir des médicaments au Nord, mais qu'est-ce qui allait se passer pour le Sud ? Et ce sont les associations de malades du Nord qui ont posé le premier ces questions-là.
Le Sud qui continue d'être touché, où la maladie d'ailleurs a des conséquences de plus en plus graves, puisque vous le rappelez aussi, aujourd'hui 70% des séropositives sont en Afrique subsaharienne, où on meurt, où 1,5 million de personnes meurent du sida annuellement, soit les trois quarts des morts du sida dans le monde. En Afrique, où se rendait le pape Benoît XVI il y a 12 jours, en tenant des propos incroyables dans l'avion qui le conduisait au Cameroun. France Inter, Eric Valmire, le 13 mars dernier.
Bien sûr, il y a la ferveur populaire au passage de la Papa Mobile. Mais l'on retiendra surtout les paroles prononcées par Benoît XVI pendant son voyage au sujet de la lutte contre le sida. Je dirais qu'on ne peut pas résoudre le problème du sida avec l'argent.
Non si può superare con la distribuzione di preservativi, al contrario, aumentano il problema.
On ne peut pas résoudre le problème du sida avec la distribution des préservatifs. Au contraire, ils aggravent le problème. La solution est double. D'abord, une humanisation de la sexualité, un renouveau spirituel, humain, intérieur, qui permet ainsi de se comporter différemment avec les autres. Et deuxièmement, une amitié, même une disponibilité pour les personnes qui souffrent. La femme du président camerounais appréciera au passage. Chantal Billet dirige une fondation qui finance la recherche contre le sida. Au Cameroun, 500 000 personnes vivent avec le virus.
Tout ce qu'on a retenu du voyage du pape en Afrique, finalement, ce sont ces fameux propos sur le sida, sur l'usage du préservatif qui aggraverait les choses plutôt que de prémunir l'humanité ou de prévenir l'humanité contre le sida. Dans les pages rebonds de Libération ce matin, vous dites, Éric Favreau, enfermer le débat autour du seul préservatif est contre-productif. À la dernière conférence internationale sur le sida en août à Toronto, un consensus réel est apparu sur la multiprévention. Il n'y aurait pas que le préservatif.
Le problème est évidemment, le débat est assez compliqué autour des nouvelles techniques de prévention. Il va de soi que le préservatif est l'objet le plus efficace, le plus simple, le plus indémodable, le plus indispensable. Cela étant, il se passe des situations épidémiques dans les pays occidentaux un peu particulières. Comment vivre pendant 20 ans ou 30 ans avec un préservatif? Quand un jeune ou un gay vous dit, ben voilà, moi ça fait 10 ans, 15 ans que je mets un préservatif, je ne peux pas tout le temps. Qu'est-ce qu'on lui dit? On lui dit, ah ben c'est pas grave, continue, il faut en mettre quand même. Et s'il n'en met pas? Le problème aujourd'hui, c'est que dans les pays occidentaux, en particulier en France, l'épidémie est assez localisée. Elle est assez localisée dans certaines communautés, avec certains groupes à risque. Et là, il se passe qu'il y a depuis quelque temps toute une série de nouveaux outils de prévention. D'abord, il y a le constat que lorsqu'une personne est traitée avec la trithérapie, pour ne pas rentrer dans des détails très techniques, mais bon, son taux de charge virale s'effondre et la personne est quasiment plus contaminante. Elle peut avoir des relations sexuelles sans provoquer le moindre risque. C'est une donnée importante. Il y a d'autres outils qui peuvent être utilisés, le traitement avant des prises de risque. Bref, il y a une sorte de panel d'outils sur lequel, bizarrement, et c'était un peu je m'en étonnais, sur lequel on ne travaille pas. On ne travaille pas pour les pays occidentaux.
Oui, bon, parce qu'il reste l'Afrique, et tenir les propos du pape avant d'arriver en Afrique, c'est quand même grave dans un pays où il y a Est-ce qu'il nous reste très peu de temps, Éric Favreau, est-ce qu'un jour le sida sera un souvenir, un mauvais souvenir?
En tout cas, le sida, l'épidémie de sida peut être largement contrôlée. Un souvenir, vous avez bien vu les prévisions qui ont été faites sur le vaccin, ça n'a pas vraiment marché. Il y a des études, bon, mais c'est des études un peu mathématiques, hein, sur des modèles, que si par exemple les traitements étaient massivement diffusés, l'épidémie du sida dans le monde s'effondrerait de 90%. Il y a plein de choses qui se passent. La grosse inconnue, c'est la mobilisation internationale et ces années de crise sont pour ça très déroutantes. Est-ce que, par exemple, le Fonds mondial aura toujours assez d'argent pour lancer des politiques massives?
Merci Éric Favreau. Je rappelle que vous êtes l'auteur du livre « Nos années SIDA, 25 ans de guerres intimes » publié aux éditions La Découverte. Vous avez pu entendre un extrait du documentaire suivant « SIDA, une histoire qui n'a pas de fin » de Paul Muxel et Bernard de Sellier, disponible en DVD aux éditions Montparnasse. Bertrand de Sellier. Je signale également le documentaire « I am because we are » de Nathan Risman, sorti le 25 mars dernier au cinéma. Et je vous rappelle que le SIDAction se déroule encore en ce moment jusqu'au 11 avril. Pour faire un don, téléphonez au 110 ou sur internet au www.sidaction.org. Vous pouvez retrouver ces références par téléphone au 32 30 34 centimes la minute ou sur le site franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire, la technique Stéphane Poitevin et Éric Morin, documentation et archivina Emmanuel Fournier, Clarisse Le Gardien, Hervé Evano, Caroline Chausset et Franck Olivar, une réalisation de Anne Kobilac. Demain, dans 2000 ans d'histoire, la vie amoureuse d'une grande impératrice de Russie, Catherine II.